Donc, bonjour à tous. Ce matin, notre méditation de la parole de Dieu va être tirée de l'épître de Paul aux Philippiens. Alors, comme pour la deuxième épître de Paul à Timothée, que nous avons vu les semaines précédentes, cette épître de Paul aux Philippiens a été rédigée lors d'une période de captivité. En fait, sur 13 lettres de Paul dans le Nouveau Testament, 5 ont été écrites alors qu'il se trouvait en prison. Alors je ne dis pas cela pour alimenter vos statistiques sur les épîtres de Paul ou simplement votre connaissance, mais parce que cela m'a fait réaliser que Paul n'a pas vécu ces temps d'emprisonnement comme du gâchis, comme des embûches au plan de Dieu, alors qu'il avait tant de choses à faire à l'extérieur. Il se présente dans cette épître comme un serviteur de Jésus-Christ, dont le service l'a amené en prison, et qui continue à servir d'une autre manière, par exemple en écrivant aux Philippiens, en les encourageant, depuis son lieu de détention. Et même dans d'autres épîtres de prison, des épîtres de captivité qu'on appelle Éphésiens et Philémon, il se présente comme prisonnier de Jésus-Christ, signifiant par là qu'au-delà de ces circonstances d'emprisonnement, au-delà des pouvoirs politiques et religieux de l'époque, il y a le Seigneur Jésus-Christ qui dirige toutes choses, et que s'il se retrouve prisonnier, c'est avant tout de la volonté de Jésus-Christ. D'ailleurs, il aurait peut-être suffi de renier son alliance à Jésus-Christ pour que cessent les oppositions politiques et religieuses à son encontre. Il aurait sûrement retrouvé sa liberté de mouvement, mais aurait aussi sûrement perdu sa liberté intérieure, perdu sa joie. Car un des paradoxes de cette lettre, c'est qu'alors qu'elle est écrite en prison, Paul y exprime une joie étonnante malgré des circonstances difficiles, et même dans des circonstances difficiles. Il décrit aussi ses difficultés, il emploie même le mot détresse quand il parle de ses difficultés. Mais au milieu de tout cela, sa joie est toujours présente, elle est sous-jacente, elle cohabite avec les difficultés, elle est prête à jaillir du cœur de Paul. Lisons ensemble la prière qu'adresse Paul à Dieu, juste après les salutations aux Philippiens. On va lire le chapitre 1, versets 3 à 8. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu car, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement en jour de Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers vous tous, et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde, aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule, que lorsque je défends l'évangile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin, je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Donc, on voit que Paul dit sa reconnaissance, sa joie, son amour, et aussi comme fortuitement son emprisonnement, hein, même quand je suis dans ma cellule, enchaîné. Hein. Mais cela ne semble pas être l'essentiel pour Paul. En fait, même le seul passage où il va parler clairement de sa détention dans l'Épître se trouve au premier chapitre, toujours les versets 12 à 19. Et ce sera en fait pour rassurer les Philippiens en leur disant que sa détention a servi la cause de l'Évangile, car toute la garde de César a su que c'était à cause de Jésus-Christ qu'il était prisonnier, et non pour un délit ou pour un crime. Et la plupart des frères ont été encouragés par son témoignage fidèle et ont à leur tour annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On va juste lire 2-3 versets là-dessus. « Je tiens à ce que vous le sachiez, frères. Ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers Jésus-Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » Donc on voit que la foi de Paul a été contagieuse en prison et au-delà. Les barreaux n'ont pas pu emprisonner la parole de l'Évangile. Et quant au thème de la joie, il apparaît tout au long de cet épître. Un peu plus loin, Paul exhorte les Philippiens à rendre sa joie complète en vivant en accord les uns avec les autres. Encore plus loin, il les encourage à accueillir avec une grande joie Épaphrodite, un frère de leur église que Paul leur envoie après qu'il leur ait rendu service. Et quand on arrive au début du chapitre 3, il écrit « Enfin, mes frères, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. » On voit que Paul s'attend à ce que la joie soit un ingrédient essentiel de la vie chrétienne, un de ses marqueurs. Alors, revenons au chapitre 3, verset 1. Enfin, mes frères, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous, ou réjouissez-vous dans le Seigneur, selon les versions, ce qui revient au même. On a là un premier indice du secret de Paul, du secret de sa joie. Elle lui vient du Seigneur. En fait, Paul carbure à l'évangile. Sa joie a une source intarissable, qu'aucune circonstance ne peut assécher, même pas la prison dans son cas. Elle repose sur le Seigneur lui-même, sur ce qu'il est pour nous, sur ce qu'il a fait pour nous. Donc il nie pas les difficultés, il est en prison, mais dans ses difficultés, sa joie perdure et passe à travers ses difficultés. Au chapitre 4, verset 4, il réitère cette exhortation à se réjouir de ce que le Seigneur est pour nous, avec en plus l'ajout en tout temps. On va lire 4, verset 4. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Donc, on en revient à l'opposition apparente ou le paradoxe entre les circonstances, en tout temps, favorable ou non, et la joie. Alors, la question qu'on peut se poser, est-elle possible cette joie dans l'adversité, comme dans les moments plus faciles où tout semble rouler? D'après Paul, oui. Paul ne nie pas les problèmes de la vie, et même plus tard, il va exhorter les Philippiens, quelques versets après, à exposer leurs besoins à Dieu, à les remettre au Seigneur dans la prière, mais par deux fois en quelques lignes, au chapitre 3, verset 1, et au chapitre 4, verset 4, il exhorte ses frères à se réjouir dans le Seigneur. Et par deux fois aussi, il souligne qu'il répète cette exhortation. On va relire les deux versets les uns après les autres. Enfin, mes frères, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. On voit que sa joie puise sa source dans ce que le Seigneur est pour vous, et pour eux, et pour nous. Et on voit que par deux fois, il le répète. Ça veut dire que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'on doit se répéter. C'est quelque chose qui n'est pas naturel dans les difficultés. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur ? Réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Si on se le rappelle brièvement, le Seigneur Jésus a quitté la gloire du ciel pour eux, pour nous. Il a accepté de mourir sur la croix pour nous. Notre pardon, notre pleine acceptation, notre adoption, notre place auprès de lui quand il reviendra, tout cela nous a été acquis par Jésus-Christ. Et tout cela va produire de la joie et de la reconnaissance si les Philippiens, si nous, on s'en nourrit, on le médite, on en fait le sujet de nos pensées. Dans le même ordre d'idées, les psaumes, par exemple le psaume 1, dès le début, nous dit « Heureux, heureux, qui trouve son plaisir ou sa joie dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. » Donc dès le premier psaume, celui qui va donner le ton à tous les autres, la méditation de la parole de Dieu est censée donner de la joie. On est encouragé à la méditer quand, jour et nuit. C'est une manière de parler, on dort aussi la nuit, mais qu'elle soit présente à nos pensées tout au long de la journée. Et en Philippiens, c'est la même chose, on est exhorté à se réjouir en tout temps de ce que Jésus-Christ est pour nous. Dans le psaume 1, on médite jour et nuit, en Philippiens, on se réjouit en tout temps. La personne qui méditait la loi dans le psaume 1 était comparée à un arbre qui avait ses racines plantées près d'un courant d'eau, ce qui veut dire qu'aucune sécheresse, aucune circonstance défavorable ne pouvait affecter sa croissance. Il était planté près d'un cours d'eau, ses racines plongées dans la parole éternelle du Dieu vivant. Pareillement, la méditation de ce que Jésus-Christ est pour nous, de son évangile, va nous réjouir intérieurement au-delà des circonstances. Alors, je vais prendre un exemple un peu simple, sans grandes conséquences volontairement, qu'on peut vivre tous les jours. Si j'arrive juste à temps pour prendre mon bus, que j'ai failli rater, Si je trouve une place de parking alors que j'ai un rendez-vous important, hein, si les rendez-vous, si les circonstances de ma journée sont favorables, je vais spontanément remercier le Seigneur, et c'est bien, hein, parce que cela veut dire que quand même j'y suis sensible à ces clins d'œil tout au long de ma journée. Dieu est bon, c'est ce que je vais dire, merci Seigneur. Mais si je rate le bus, si je suis pris dans les travaux en voiture, j'ai pris un raccourci, paf, il y a des travaux. Si tout semble compliqué dans ma journée, est-ce que Dieu va cesser d'être bon pour autant ? C'est une question rhétorique. Hein. Est-ce que les circonstances favorables sont un signe de l'approbation de Dieu sur nos vies et les difficultés ou les épreuves le signe de sa désapprobation ? Absolument pas. C'est jamais ce que la Bible dit. Laissons-nous imprégner, transformer par l'évangile de Jésus-Christ. Je vais marcher pas selon les circonstances, mais selon ce que la Bible me dit de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Selon ce que Dieu le Père pense de moi à cause de Jésus-Christ. Si je suis approuvé de Dieu, c'est parce que Jésus-Christ a payé mes péchés. J'en suis totalement quitte. Et cela ne change absolument pas, quelle que soit ma journée, mes circonstances. Et quand je rentre chez moi, je peux m'approcher de Dieu ou dans la journée grâce à Jésus-Christ et pas à cause de mes sensations ou à cause des circonstances. Paul est en prison. Je pense que c'est ce qu'on peut appeler une circonstance défavorable. Et pourtant, il se réjouit de ce que le Seigneur est pour lui. Le cœur de son identité se trouve en ce que Jésus-Christ a fait pour lui, et donc le cœur de sa joie aussi. Si j'essaie de trouver ma joie, on essaie tous de le faire, souvent, hein, on peut le faire, dans ce que j'accomplis, dans ce que je fais pour Dieu même, donc même dans des bonnes choses. Dans ma famille, quand tout va bien, en tout cas, on est content. Hein. Voilà. Ou dans toute autre chose que en Jésus-Christ, et au lieu de croire que Jésus-Christ, lui, a tout accompli à ma place, et s'il a tout accompli à ma place, eh bien, je n'ai pas essayé de m'accomplir, de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit aux autres, à moi-même ou même à Dieu. Donc si je trouve ma joie, si j'essaie de trouver ma joie ou ma sécurité sur des compétences humaines qui sont fragiles, limitées, fluctuantes, ça peut bouger à tout moment, hein. Ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi des autres qui sont en face de nous, enfin voilà, eh bien... ça risque de mal se passer un moment, quoi. Ce n'est pas une ancre solide. Pareillement, je n'ai pas justifié ma vie. Jésus-Christ a vécu une vie parfaitement juste à ma place. À la croix, il a pris mes péchés, mais pas seulement. Il m'a aussi donné sa justice. Et si Dieu me voit en Jésus-Christ, ce que dit la Bible, ce que dit l'Évangile, il me traite selon ce que Jésus-Christ mérite, et pas ce que moi je mérite. Et qu'est-ce que mérite Jésus-Christ ? La pleine acceptation et la pleine approbation de son Père, et donc moi avec lui. C'est tout cela, la méditation des bénédictions de l'Évangile, qui va produire une joie profonde en moi et qui ne me laissera pas inactive pour le Seigneur. Dans les Évangiles, il y a un récit qui illustre un peu ça. C'est le récit où Jésus envoie 72 disciples avec son autorité pour proclamer le royaume de Dieu. Donc, ils reviennent enthousiastes, et c'est normal, et se réjouissant même que les démons leur étaient soumis. Incroyable, hein ? Vous allez quelque part, vous annoncez le royaume de Dieu, il y a des gens qui sont possédés, au nom de Jésus, paf, les démons s'en vont, ils reviennent, ils sont fous de joie, quoi, ils sont enthousiastes. Mais écoutez la réponse que leur donne Jésus en Luc 10, 20. « Ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Jésus leur répond qu'il approuve ce qui s'est passé, hein, parce qu'à moi, il leur dit aussi, je voyais Satan tomber du ciel. Mais il leur rappelle que ce que Dieu a fait pour eux, il a inscrit leur nom dans le ciel, il les a sauvés, est plus important que tout ce qu'ils peuvent faire pour le royaume de Dieu. Il les encourage à trouver leur identité dans la grâce de Dieu et à s'en réjouir plutôt que dans ce qu'ils font pour Dieu. Et si demain, ces mêmes disciples se retrouvent en prison ou gravement malades, ne pouvant plus sortir de leur lit, est-ce que leur nom sera moins inscrit dans le ciel ? Est-ce que ce qu'a fait Jésus pour eux aura moins d'importance ? Ce qu'a fait Jésus pour nous perdurera au-delà de la mort. Et c'est pour ça que c'est une richesse incroyable qui donne de la joie à travers toutes les circonstances. Paul, en Romains 8, versets 31 à 39, nous dit que rien, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pour Paul, ce rien est complété par toute une liste. Il va dire la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Aucune créature d'en haut, d'en bas, de quoi que ce soit, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans ce rien. Le chômage, la maladie, l'opposition, une situation qui vous semble bloquée. Rien de tout cela ne pourra nous séparer de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Et même, Dieu va s'en servir pour œuvrer à nous, pour nous rapprocher de lui. Et c'est pour cela que nous pouvons nous réjouir de tout ce que le Seigneur est pour nous en tout temps. Donc on va traverser des périodes où on cohabiter la souffrance, la difficulté et la joie du Seigneur. Ce n'est pas une opposition, c'est quelque chose qui cohabite dans nos vies. Enfin, pour la dernière partie de ce message, je voulais méditer sur le processus. Qu'est-ce que c'est que d'apprendre à se réjouir en tout temps de ce que le Seigneur est pour nous ? Est-ce que cela va nous venir spontanément en devenant chrétien ? Ou bien est-ce que nous allons passer par un apprentissage, par une école, à la grâce de Dieu? On a un indice dans la suite de la lettre aux Philippiens. Écoutez ce que Paul leur écrit au chapitre 4, versets 10 à 13. Je me suis réjoui comme d'une grâce venant du Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours. Mais vous n'aviez pas eu l'occasion d'aller manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et à toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Donc, Paul ne nie pas qu'il était dans la détresse. Mais dans cette détresse, il y avait autre chose. Il y avait la joie du Seigneur. Et il peut tout grâce à celui qui le fortifie. Donc, ce n'est pas le besoin qui le fait parler ainsi. Pourtant, il dit, en même temps, à la fin du verset 12, que je connaisse l'abondance, que je sois dans le besoin. Donc, il a des réels besoins. Mais ces besoins ont été satisfaits par Jésus-Christ. Mais ce qu'il dit par deux fois, j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. C'est le secret que j'ai appris. À nouveau, Paul se répète, il a appris. Donc, Paul n'est pas sans besoin, comme j'ai dit, il le souligne. Mais même si ce n'est pas le besoin qui le pousse à se réjouir du don des Philippiens, parce que Paul a ses besoins satisfaits par sa relation avec Jésus-Christ. C'est là son secret. Il a appris à traverser toutes ses épreuves grâce à celui qui le fortifie. Il n'est pas autosuffisant. Il n'est pas insensible aux problèmes de la vie. C'est pas un ascétisme. C'est pas comme dans les religions orientales où on se coupe du monde pour pas souffrir. Ça n'a rien à voir. Mais il n'est pas autosuffisant, mais dépendant de celui qui le fortifie. Il dit un peu la même chose dans 2 Corinthiens 9, 12, quand il dit « Ma grâce te suffit ». C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Donc, on revient au verset, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Donc, ce n'est pas une formule magique à brandir pour réaliser toutes choses. Ah, ben avec le Seigneur, je peux tout. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Cela veut dire que je vais pouvoir traverser le dénuement sous toutes ses formes, comme l'abondance, par celui qui me fortifie. Les psaumes aussi nous en parlent. Par exemple, le psaume 23. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Ce n'est pas si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Il y aura forcément, dans ce temps présent, des moments de souffrance. Une vie sans souffrance, ça n'existe pas. Mais je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Il m'a promis sa présence dans ces moments-là. C'est pour ça que je peux traverser ces périodes de dénuement et celles d'abondance. Je peux donc bénéficier de la présence de celui qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Parce que c'est comme ça qu'il est parlé un moment de Jésus dans l'Épître aux Hébreux. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Même Jésus, dans son humanité, qui pourtant était sans péché, a dû apprendre. Ça nous semble mystérieux, hein, mais c'est comme ça. On ne peut pas tout savoir spontanément. On va apprendre notre communion avec Jésus-Christ dans les bons comme dans les moins bons moments. Et je peux m'approcher de son trône de grâce en ayant l'assurance d'être secouru au bon moment, car il compatit à mes faiblesses, parce qu'il les a appris lui aussi, il a vécu lui aussi ses faiblesses durant son pèlerinage terrestre. Se réjouir en tout temps de ce que Jésus-Christ est pour nous, ne pas dépendre des circonstances pour trouver notre joie en lui, va à la fois venir de notre méditation de l'Évangile, ne cessons jamais de nous prêcher à nous-mêmes l'Évangile, ou entre nous évidemment, de nous rappeler ce que Jésus-Christ a fait pour nous, et aussi de notre communion avec Jésus-Christ, pour qu'il devienne celui grâce à qui nous pourrons traverser le dénuement comme l'abondance dans nos vies. Et cela va nous prendre toute une vie ici-bas. Une anecdote très simple, hier matin, à un moment, j'avais prévu des trucs, et puis finalement, la journée ne se déroule pas comme prévu. Puis ça commence à m'agacer, et puis évidemment, j'avais partagé à ma femme ce sur quoi j'allais parler, et puis évidemment, elle ne m'a pas me rappelé, mais tu n'as pas dit que tu allais parler de se réjouir toujours dans le Seigneur. Elle avait raison. Et donc du coup, ça m'a saisi, et il a fallu que je me remette en mode évangile pour me rappeler que ce n'était pas grave tout ça. Ouais, et ça nous arrive tous les jours dans nos vies. Et voilà, c'est aussi cela le combat de la foi, tout simplement, hein, apprendre à placer notre confiance, notre appui en Jésus-Christ, de plus en plus et de moins en moins en nous-mêmes. Ouais. On va finir par un moment de prière et puis je laisserai la place à Loïc. Seigneur, tu nous exhortes par la bouche de l'apôtre Paul à nous réjouir en tout temps de ce que tu es pour nous. Seigneur, apprends-nous à trouver notre joie de plus en plus dans ton évangile, dans ta personne, au-delà des circonstances présentes qui peuvent être si variables. Et merci Seigneur d'être notre force, notre joie, notre pardon, celui qui nous restera fidèle, quelles que soient les circonstances, Seigneur. Amen.
Merci beaucoup Christophe. Nous allons prendre la Sainte-Seine. J'invite les personnes qui veulent bien...